Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La critique littéraire se résume-t-elle à juger une œuvre ? A-t-elle une véritable indépendance vis-à-vis des courants et des pratiques intellectuelles qui l'entourent ? Il serait aisé de voir dans la critique comme un miroir des tendances d'une époque. En 1948, la date de cette émission de la Tribune de Paris d'Émile Dana, ce sont les courants existentialistes et psychanalytiques qui semblent irriguer la pratique de la critique littéraire. La question se pose alors de savoir s'il existe un prisme neutre, à travers lequel le critique peut analyser une œuvre, ou si au contraire toute prétention à l'objectivité ne serait que chimérique. L'essence de la critique résiderait alors dans la subjectivité même de celui ou de celle qui écrit. André Mauroy, de l'Académie française, Armand Hoc de Carrefour, Maurice Nadeau de Combat, et finalement Georges Bataille, directeur de Critique, débattent ainsi de ces questions, un 19 novembre 1948 sur la chaîne nationale. L'occasion d'entendre Bataille notamment, dont les passages à la radio sont rares, apporter sa pierre à l'édifice d'un débat sinon peu fantasque, et suggérer que la critique devrait être une guillotine, formule à la poésie noire et délicieuse. L'éternelle question de la place et de la valeur de la critique littéraire donc, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Où en est la critique littéraire ? Que valent les formes nouvelles et multiples qu'elle a cru devoir prendre dans la presse issue de la Libération ? Que valent les méthodes d'appréciation nouvelles, tout au moins les nouvelles optiques utilisées par nos critiques actuelles ? C'est le thème d'entretien que nous proposons ce soir à quatre personnalités du monde des lettres.
Autour du micro sont réunis
André Mauroy de l'Académie française,
Armand Hoc de Carrefour,
Maurice Nadeau de Combat et du Mercure de France,
et Georges Bataille, directeur de Critique. Rappelons que la revue Critique a obtenu, il y a quelques mois, le premier prix des revues.
Émile Dana va mener le débat.
Nous assistons, messieurs, vous assistez comme tout le monde, à une prolifération de la critique. Des grandes monographies des revues mensuelles aux très courtes notules des quotidiens, en passant par les feuilletons traditionnels et même par ces conseils de lecture qui avoisinent dans les magazines féminins les courriers du cœur et les recettes de cuisine, la critique décidément est partout. Mais est-ce encore de la critique ? Où est la vraie critique ? Jusqu'où va-t-elle ? Où n'est-elle plus ? C'est ce qu'on se demande, c'est ce que nous vous demandons ce soir. André Mauroy.
Bien, je crois que la critique a nécessairement évolué de manière à être plus complexe et à occuper une plus grande place dans la vie, parce que l'incertitude des hommes augmentée au XVIIe siècle, en somme, on se contentait de juger de la valeur littéraire d'un ouvrage, mais on n'avait pas à établir la vérité ou la fausseté de la philosophie de son auteur, ou du moins c'était l'affaire des théologiens. Au XVIIIe siècle, on commençait déjà à s'en préoccuper parce qu'il n'y avait plus de doctrine d'État ou de doctrine universelle. Au 19e, alors nous arrivons dans une zone où les hommes ne savent plus que penser sur tous les sujets et où par conséquent le critique est obligé de mettre de l'ordre.
Armand Hogg.
La critique me paraît remarquable aujourd'hui, d'abord par son orgueil, en ce sens qu'elle veut traiter de tous les problèmes et que le nombre des critiques augmente singulièrement, et puis par l'annexionnisme dont elle fait preuve vis-à-vis de toutes sortes de sujets qui auparavant n'appartenaient pas à la littérature. Mais je crois aussi que c'est une question de temps, d'époque. Ça prouve que les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, les problèmes du temps, sont plus importants que les simples problèmes romanesques. Par exemple, ce qui explique pourquoi un jeune homme qui a quelque chose à dire commence par faire de la critique au lieu d'écrire un roman. Au XVIIe siècle, par exemple, la doctrine littéraire, c'est le divertissement. Je crois que le mot est dans une des préfaces de Racine. Le premier devoir est de plaire. Aujourd'hui, c'est au contraire l'engagement, c'est-à-dire prendre conscience d'un certain nombre de problèmes. Bien, voilà ce qui fait que la critique est à la fois plus orgueilleuse et plus annexionniste aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 50 ans.
Maurice Nadeau.
Oui, je crois qu'il faut distinguer plusieurs genres de critiques. La critique au jour le jour, qui s'exerce dans les journaux, qui n'est au fond qu'une forme de la conversation. La critique qui s'exerce dans les œuvres, enfin dans les livres. et peut-être aussi dans les revues, et peut-être aussi la critique faite par les créateurs eux-mêmes. De sorte que si on veut juger ces trois choses à la fois, j'ai peur qu'on s'égare un peu. Il faudrait peut-être sérier, enfin examiner ce qu'on appelle vraiment critique, c'est-à-dire au fond exercice d'une profession telle qu'elle existe depuis Sainte-Beuve, puisque avant il pouvait y avoir la critique de Voltaire ou celle de Fréron ou même celle de Montaigne, mais au fond elle s'exerçait dans des œuvres créées, si on veut. Ça n'était pas une réflexion professionnelle sur la valeur des ouvrages ou des tragédies ou de toutes les œuvres littéraires.
Il y a eu Boileau tout de même.
Oui, Boileau, et il y a eu Boileau, évidemment, mais alors il y a eu aussi Victor Hugo, la préface de Cromwell, William Shakespeare, enfin tout ce qu'on veut. Il y a le manifeste, est-ce que c'est de la critique à partir du moment où un homme comme Victor Hugo, par exemple, rompt avec le classicisme, prône des valeurs nouvelles, est-ce qu'on peut... Je crois qu'on doit envisager, par exemple, son action en ce sens comme une action critique, et pourtant, ça n'est pas un critique.
C'est un rare mot que vient de répondre Maurice Nadeau. Georges Bataille.
Il y a eu tout un temps où la critique a pris d'une façon tout à fait systématique une forme, du fait qu'à à la critique des amateurs, à laquelle Nadeau faisait allusion tout à l'heure, a succédé la critique professionnelle, tout d'abord celle des journalistes, puis celle des professeurs. On a ainsi une suite de grands critiques qui se sont engendrés les uns les autres, comme dans les généalogies bibliques. On a Sainte-Beuve, Taine, Brunetière, Lançon, les uns professeurs, les autres journalistes. Sainte-Beuve, journaliste, les professeurs ont suivi, qui ont ainsi créé une sorte de genre extrêmement fermé, avec son allure très particulière, ses problèmes assez étroits souvent. Actuellement, il y a encore des journalistes, il y a encore des professeurs. Les journalistes dans la critique tentent à prendre le pas sur les professeurs, mais surtout, ce qui arrive, c'est que la critique déborde les uns et les autres. La critique a pris un sens plus vaste qu'elle n'a pris autrefois. La littérature déborde dans tous les sens du fait que, comme le disait André Mauroy tout à l'heure, la société n'a plus ses vérités bien fixes. La littérature se substitue à une église qui autrefois enseignait des vérités tout à fait ordonnées, et elle le fait d'une façon, elle, désordonnée. La critique qui a parlé de tout cela, en quelque sorte à le mettre en ordre, est devenue quelque chose de beaucoup plus vaste, et ce cadre de la critique de Sainte-Beuve, de Taine, est maintenant un peu oublié au fond.
Vous êtes donc tous d'accord, messieurs, pour penser que la critique systématique, la critique délibérée, est née en somme avec les feuilletons de Sainte-Beuve et les grandes études de Taine. Mais, et c'est, je vous le rappelle, notre question principale ce soir, la critique depuis lors a-t-elle évolué, André Mauroy?
Eh bien, oui, certainement, elle a évolué, en ce sens que, d'abord, le critique a été amené, comme le disait Georges Bataille, à s'occuper d'un beaucoup plus grand nombre de points de vue. Et il a été amené à étudier l'individu qui a écrit, c'est donc à faire de la biographie, à étudier le fonctionnement de son esprit, donc à faire de la psychanalyse, à rebâtir sa doctrine, donc à faire de la philosophie ou de la politique. De sorte que, au fond, le critique devient un créateur, mais c'est un créateur qui crée à propos d'une autre œuvre.
Armog.
Alors peut-être, là faut-il faire une différence qui me paraît importante entre deux genres qui existent à l'intérieur de la critique qui ne sont peut-être pas les mêmes. Il y a la critique, ce que vous venez de définir l'un et l'autre, M. Mauroy, M. Bataille, que j'appellerais, je crois que c'est la plus intéressante, la critique des idées et des problèmes de l'époque. C'est la seule même qui m'intéresse. Mais tout à l'heure, Georges Bataille a parlé de la critique des professeurs. C'est pas tout à fait de la critique. C'est une science particulière qui a ses lois, ses rigueurs, ses grandeurs, ses servitudes, qui est plutôt, enfin qui procède de la science, n'est-ce pas, qui est une classification, si vous voulez, comme les classifications en biologie ou en chimie. C'est une classification historique et scientifique qui se fonde sur un certain nombre de principes et de règles, par exemple la recherche minutieuse des sources, dont nous pourrons parler tout à l'heure. Ce n'est pas exactement ce que vous définissiez l'un et l'autre comme critique il y a un instant.
André Mauroy ?
Non, en effet, je ne crois pas que ce soit là la critique dont nous souhaitons parler. C'est de l'histoire littéraire. Il est vrai que Sainte-Beuve, par exemple, faisait lui très souvent aussi de l'histoire littéraire.
Port-Royal.
Oui, Port-Royal. Mais enfin, presque toujours, il y mêlait tout de même quelque chose qui était l'humeur particulière de Sainte-Beuve. Il n'essayait pas d'être objectif. Les professeurs prétendent être objectifs, je ne crois pas qu'ils le soient.
Moi non plus. Georges Bataille.
À l'opposé de cette histoire littéraire, il faut citer une tendance importante de la critique qui est donnée dans son développement philosophique. Les ouvrages de Léon Chestov, par exemple, ne sont pas à proprement parler des ouvrages de critique. Cependant, ils font en quelque sorte double emploi avec le travail des critiques, puisqu'ils analysent des ouvrages littéraires et cherchent à en tirer tout l'enseignement qu'ils contiennent. La critique de Léon Chestov est peut-être quelque chose de peu actuel en France, mais cette tendance a plus ou moins débordé la critique actuelle. Il est certain que, au premier rang de la critique actuelle, il faut citer Jean-Paul Sartre et Maurice Blanchot. Jean-Paul Sartre est tout à fait un philosophe, et Maurice Blanchot, en dépit du fait qu'il... on lui donne normalement le nom de critique, ne le mérite peut-être pas. Beaucoup de gens pensent que sa critique est surtout une critique philosophique, et ils ont raison. Reste à montrer que ce développement de la critique, le plus ambitieux qu'elle ait manifesté jusqu'ici, était devenu tout à fait nécessaire au moment où l'ensemble des choses littéraires s'est mise à déborder dans l'ensemble des choses de la vie.
Maurice Nadeau.
Bon, je crois qu'on pourrait trouver une définition que je vous propose. Devient critique ou n'est critique que celui qui juge. Parce que, par exemple, Maurice Blanchot passe pour critique, et je pense qu'il est un critique, mais ce genre de critique, ou comme celui de Sartre, ça revient à une annexion de l'ouvrage lu ou des systèmes qui se voient dans ces ouvrages, qu'ils veulent former pour eux leur propre système. Alors que la critique, au fond, le critique, c'est malheureux, mais enfin, c'est un juge, c'est-à-dire à ma droite les bons, à ma gauche les méchants, et on peut se demander d'abord si ce rôle est fondé, et ensuite, à partir de quel principe on peut juger. Enfin, on voit bien, par exemple, pendant la période classique, où il y avait un seul grand mouvement, au fond, il ne pouvait pas y avoir de critique, parce qu'il n'y avait pas différentes choses qui pouvaient s'opposer. De même, dans le romantisme, Sainte-Beuve a été le critique du romantisme, et les autres ont disparu auprès de lui. Tandis que maintenant, où il n'y a pas d'école, pas de très grand mouvement, il y a un pluralisme, enfin une prolifération de critiques, qui vient aussi de cette prolifération de mouvements différents.
Armand Hogue.
Je voudrais répondre à Maurice Nadeau qui dit très justement que le critique, c'est avant tout un monsieur qui juge. Oui, qui juge, mais au nom, enfin, d'une certaine position ou d'un certain problème dont il a pris conscience et qui répond aux besoins de son temps. Je veux dire ceci, il y a des problèmes qui ne sont pas du tout des problèmes d'histoire littéraire, qui sont des grandes idées installées au centre d'un temps. Par exemple, aujourd'hui, le problème de l'existence, du temps de Barrès, le problème de la liberté lyrique, si vous voulez, ou à certains moments de notre littérature, le problème de l'ordre, ou le problème du christianisme au moment du Graal et de Lancelot. Ça, ce sont des problèmes installés dans l'époque. C'est au nom d'un de ces problèmes, et après en avoir pris conscience, qu'un critique, s'il est grand, juge. Si aujourd'hui quelqu'un se mettait à juger au nom de la liberté ou l'exaltation lyrique à la Barrès notre littérature, eh bien ça n'aurait aucun intérêt parce que le problème n'est pas installé au centre de nos préoccupations et de nos mœurs.
André Mauroy.
Je crois que ce que dit Armand Hogue est juste et qu'on peut être un grand critique si l'on juge au nom d'une certaine préoccupation idéologique, mais je crois qu'on peut aussi être un grand critique d'une autre manière, en sympathisant avec l'œuvre au lieu de la juger, en essayant de se mettre à l'intérieur de l'œuvre et de voir ce qu'elle est. Quand Alain écrit sur Stendhal ou sur Balzac, il ne juge pas,
Il a un parti pris d'admiration.
Oui, monsieur Monroy, mais vous avez été, j'ai été après vous, nous avons été tous les deux les élèves d'Alain. Alain ne parlait bien que des gens avec qui se sentait même une certaine familiarité. Par exemple, Stendhal, il aurait parlé de, mettons, de Racine, mais il n'en aurait pas très bien parlé, il me semble.
Ah, je suis tout à fait d'accord. Seulement, par exemple, il parlait très bien de Balzac, et il n'était pas du tout en accord politique avec Balzac, et il n'éprouvait pas le besoin de dire qu'il était en désaccord avec lui.
Oui, c'est exact.
La grandeur de Balzac lui suffisait.
Maurice Nadeau.
C'est l'autre aspect de la critique. Celle non pas qui se place à l'extérieur et qui juge d'après des critères à elle, mais celle qui essaye de refaire l'œuvre, en somme, de celui qu'elle examine.
Oui, et je crois que ça peut être très beau.
Oui.
Nous en arrivons là, je crois, messieurs, à un point qu'il faut tout de même examiner, celui de l'influence de la politique sur la critique. Armand Haug.
Oui, la politique sur la critique. Naturellement, j'irai plus loin. La politique, c'est un des fanatismes, c'est-à-dire une des positions personnelles possibles du critique. Mais je crois qu'il y a bien des positions au nom desquelles on juge autres que la position politique. Il y a par exemple une critique marxiste, ça nous en sommes d'accord, et elle est intéressante. Mais il y a aussi une critique psychanalytique. Zweig en a donné de bons exemples. Il peut y avoir une critique existentialiste, elle existe, Sartre en donne des preuves. Il y a une critique surréaliste, Gracq en donne des exemples, peut-être Maurice Nadeau lui-même, je ne sais pas s'il acceptera exactement ce que je dis, mais je veux dire qu'il y a bien des fanatismes, au bon sens du mot, possibles.
Des optiques,
si vous voulez.
Maurice Nadeau.
Le danger, alors que dans ce cas-là, on ne critique bien que ce qui entre dans votre domaine, enfin dans vos cordes. Et malgré tout, ça n'est tout de même pas le rôle du critique. Enfin, Sainte-Beuve disait, bien qu'il n'ait pas respecté cette règle, qu'il fallait la deuxième qualité. La première était d'avoir du goût, la deuxième était d'être impartial.
Mais Sainte-Beuve ne l'a jamais fait.
Il ne l'a jamais fait. Oh non, Sainte-Beuve disait, il me devient presque impossible d'écrire sur les principaux auteurs de notre temps. J'aime ou je déteste trop l'homme pour en parler bien de son vivant.
Il a longuement parlé d'une nommée Mélanie Blanchecott, vous savez, poétesse illustre ou peut-être pas, de son temps. Il en a parlé avec beaucoup plus de sympathie qu'il n'a jamais parlé de Vigny ou de Hugo.
Oui, et puis alors à l'égard de Hugo, il a été très élogieux au temps des Feuilles d'automne parce qu'à ce moment-là, il était son ami. Et au temps des Chants du Crépuscule, où il était en conflit avec lui au sujet de Madame Victor Hugo et de bien d'autres choses, il a fait un article terrible sur les Chants du Crépuscule.
C'est André Mauroy qui vient de répondre à Armand Haug, Georges Bataille.
On peut se demander d'ailleurs si l'impartialité du fait du critique est souhaitable. Un critique impartial serait en somme un critique inexistant. Il n'aurait aucune espèce d'existence personnelle, ce serait une ombre, une sorte de fonctionnaire de l'édition.
Il est d'ailleurs inconcevable.
Il est en fait inconcevable.
Oui, il y en a, mais ils sont mauvais.
Il y en a un certain nombre, et au fond, le critique impartial devrait normalement tenir le bas de l'échelle de la critique,
oui.
Faire la basse besogne.
Maurice Nadeau.
Oui, ce que je voulais dire par critique impartial, c'est critique impartial dans le parti pris, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres, il y a des hommes qui l'aiment, avec qui il sympathise, qu'il est plus porté à parler de ceux-là plutôt que d'autres. Mais il peut voir tout de même que des gens qui ne sont pas de son bord possèdent des qualités littéraires, philosophiques, de pensée, etc. Et il peut les reconnaître et il peut les signaler.
Armand Haug,
c'est ça l'impartialité.
Bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord. Mais ce contre quoi, je pense, nous protestons, et Nadeau lui-même, c'est contre l'idée d'une espèce de prostitution du métier critique qui consisterait à expliquer n'importe quel texte, quels que soient les goûts personnels du critique, il faudrait même qu'il n'eût pas de goût personnel.
André Mauroy.
Je crois qu'il y a un point auquel il faudrait que nous pensions dans notre comparaison avec le temps de Sainte-Beuve.
Oui, mais rapidement.
Puisque c'était notre point de départ, c'est l'agressivité du critique. Est-ce que le critique doit dire les choses qu'il pense brutalement, ou est-ce qu'il doit, comme le faisait Sainte-Beuve, les insinuer avec finesse?
Je crois qu'il vaut mieux qu'il les dise brutalement.
C'est Maurice Nadeau qui vient de répondre. Armand Haug.
Je pense aussi que la brutalité change selon les époques. Par exemple, Sainte-Beuve pouvait être quelquefois très brutal, horriblement brutal, mais d'une façon détournée, perfide et faussement gentille. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes habitués à des formes plus énergiques.
Georges Bataille.
Je trouve que la brutalité est l'idéal. Une bonne critique devrait fonctionner comme une guillotine, et il devrait plutôt en sortir du sang qu'autre chose. Mais en fait, je crois, avec une certaine expérience, que cela n'est pas à la portée des hommes, et qu'au fond, ne pouvant pas aller jusqu'au bout et ne pouvant pas tuer les gens que l'on n'aime pas, ni vraiment élever au ciel ceux que l'on aime, il n'y a qu'à rester dans une sorte de modestie.
Eh bien, nous allons laisser le mot de la fin à André Monroy.
Eh bien, je crois qu'on peut dire que Sainte-Beuve, en intitulant un livre « Mes poisons », enfermé dans l'armoire aux poisons les choses les plus violentes qu'il avait à dire, tandis que nous servons nos poisons à nos amis et au public.
André Monroy, de l'Académie française, Georges Bataille, directeur de critique, Armand Hogue et Maurice Nadeau se sont entretenus des formes et des moyens de la critique littéraire.
Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française.
Nous rappelons que les opinions émises à La Tribune de Paris engagent la seule responsabilité de ceux qui les expriment.
C'était un numéro de La Tribune de Paris d'Émile Dana, avec Armand Hogue, Maurice Nadeau, André Monroy et Georges Bataille. Diffusé pour la première fois le 19 novembre 1948 sur la chaîne nationale.